Bonsoir chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et pendant ce week-end. Mon épouse nous rejoindra demain. C'est un plaisir d'abord parce que j'ai connu Mamie et Nyarinsu comme étudiants. Et bien que je les ai eus pendant 3 ans, je ne suis pas sûr de pouvoir dire leur nom. Je pense que vous connaissez cette difficulté. Et c'est un plaisir pour moi de les voir ensuite dans le ministère et de pouvoir un petit moment passer une petite parcelle de ce ministère, de ce temps avec eux. Mamie a demandé que je me présente, je dirais 2 choses. L'essentiel du ministère que j'accomplis après avoir été pasteur et responsable de mon union d'église, c'est celui de professeur à l'Institut biblique de Nogent, où depuis le 1er septembre, j'ai pris aussi la charge de la direction de cet institut. Et dans mon temps libre, pour ce qui en reste, je suis président du CNEF. Voilà, donc le Conseil national des évangéliques de France. Alors, peut-être une petite anecdote sur le sujet qui va nous occuper. Je ne suis pas un champion de la prière. Je vais vous parler d'un sujet qui me paraît important, mais dans lequel j'ai des luttes. Quand je suis devenu pasteur, en septembre 1990, j'avais une conviction très forte, c'est qu'il fallait que d'autres jeunes se lèvent pour le service du Seigneur. Et puisque j'étais pasteur, c'était l'un de mes objectifs. Et je l'ai demandé au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je te prie. » Que dans la communauté, en fait j'avais 2 communautés en charge en même temps, de 2 unions différentes, je te prie que dans ces 2 communautés il y ait des jeunes qui se lèvent pour ton service. J'ai été là pasteur pendant 7 ans et à ma honte j'ai oublié la prière. Sauf que quelques mois avant de partir, il y a 2 jeunes indépendamment l'un de l'autre qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Étienne, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur m'a parlé, je veux partir à l'école biblique pour me préparer à le servir. » Et j'étais tout surpris. Et l'un des 2, qui n'était pas le champion ni des études ni du travail, a fait cette chose extraordinaire, il a vendu sa voiture pour aller à l'école biblique. Et quand je savais comment il tenait à sa voiture, je savais que c'était profond. Et j'ai été repris, je me suis dit, eh bien voilà, tu as prié, tu n'y as pas vraiment cru. Mais le Seigneur n'a pas oublié. Et au fond, si je peux vous transmettre quelque chose, c'est cela que j'aimerais vous transmettre. Prier, c'est pas gagner. C'est un curieux titre, peut-être un peu énigmatique pour vous. En plus, c'est pas du très bon français. Mais il y a une double signification, évidemment, dans la double écriture ici. Je voudrais vous rendre attentif tout d'abord à une chose toute simple. Tout acte de communication, quel qu'il soit, et la prière est un acte de communication, est difficile. Il n'y a que les gens innocents ou inconscients qui pensent qu'il suffit de parler pour se faire comprendre. Parce qu'entre ce que je dis et ce que l'autre entend, entre ce que je pense et ce que j'essaye de dire, je peux suivre comme ça. Hein ? Vous connaissez la difficulté. Prier, c'est pas gagner, ça veut dire que c'est pas si simple. Et en la matière, les yaka ifokon ne servent pas beaucoup. Il faut prier davantage, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le deuxième sens de ce titre, c'est qu'il ne suffit pas de prier pour que tout s'arrange dans nos vies, dans notre vie. Prier, ce n'est pas gagner ER à tous les coups. Et il y a en la matière, dans nos milieux évangéliques, des fausses croyances qui frisent, mes amis, la superstition. Et qu'il convient de combattre parce qu'elles ne respectent ni le Seigneur, ni sa parole. Et la prière peut parfois se transformer dans un tel contexte en un formidable moyen de pression, d'affirmation de supériorité spirituelle et même parfois de règlement de compte. Vous avez jamais entendu des prières qui sont des sermons? Pour éviter tout malentendu, je précise ou je redis avant d'entrer dans le vif du sujet que ma connaissance du sujet ne signifie pas que ma pratique soit exemplaire. Comme beaucoup, je lutte pour préserver un peu de temps pour m'exercer à la piété dans des journées bien remplies. Pour ne rien vous cacher, c'est le matin dans le RER en allant au travail. J'ai une heure de transport. Alors, je dois dire que les circonstances ne sont pas toujours idéales. Quand je suis assis, ça va. Quand j'ai quelqu'un qui a son coude dans mon ventre et sa tête dans ma tête, je suis moins à l'aise, si vous voyez de quoi je veux parler. Et honnêtement, il y a des fois, j'entre avec plaisir dans le dialogue avec Dieu, mais je reconnais que parfois c'est un peu par nécessité, peut-être un peu de culpabilité, et il m'arrive de trouver beaucoup mieux à faire. Non, j'aborde ce sujet en pasteur qui a beaucoup lu sur le sujet et qui n'a pas toujours été convaincu par les enseignements diffusés et par les façons de vivre cet aspect important de la piété dans le milieu évangélique. En effet, l'enracinement biblique, l'équilibre pratique et l'usage effectif de ce privilège qu'est la prière dans notre relation à Dieu ne me semble pas toujours au rendez-vous dans notre vie et dans nos églises. Je vais vous livrer ici des choses que j'ai préparées pour un centre évangélique il y a quelques années et que j'ai mis au goût du jour avec le temps. Je termine cette série de remarques préalables par une question de méthode. Ce que je vais vous dire vaut autant pour vous qui, personnellement, exercez cet aspect de la piété, que pour ceux peut-être que vous tentez d'encourager dans leur foi toute nouvelle, dans votre entourage peut-être, dans votre famille, vos enfants. Mais ma conviction en la matière, c'est que si vous voulez encourager, aider, vous serez plus utile à celui ou à celle qui est en difficulté, peut-être en souffrance, par votre vérité, par votre authenticité, que par votre perfection. Par la reconnaissance de votre foi parfois balbutiante, que par l'affirmation d'un idéal qui reste inaccessible. Voici le plan que je propose de suivre. Ce soir, prier, c'est dialoguer en vérité. Demain, prier, c'est renoncer aux attitudes païennes et ne pas se tromper de combat. Et dimanche, prier, c'est ajouter le geste à la parole et garder les yeux ouverts sur le monde. Et puis, je terminerai par quelques remarques pratiques. Alors, si ça veut bien marcher, prier, c'est dialoguer en vérité. Je vais vous inviter à lire un texte avec moi. Et en fait, j'aimerais vous faire entendre deux choses. C'est que dans la prière, il n'y a pas que des paroles. Il y a aussi de l'écoute. Et ensuite, que prier, c'est une question de vérité avant tout. Alors, Genèse 18, versets 16 à 33, est certainement un admirable exemple d'un dialogue, d'une prière dialoguée. C'est Abraham qui vient de recevoir la visite de ces trois personnes qui sont énigmatiques. Une apparition probablement d'anges de l'Éternel qui viennent lui dire qu'il aura un fils, mais qui s'en vont vers Sodome voir si ce qu'on raconte est exact. Et au verset 16, nous lisons ceci, Genèse 18. Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel se dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorre sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, vas-tu aussi les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Tu ne peux pas faire cela ! Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable, et faire mourir le juste avec le méchant, toi qui juges la terre entière. N'agirais-tu pas selon le droit ? » L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville ?» Dieu répondit, « Non, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit à nouveau la parole et dit, « Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 40 justes. » Et Dieu dit, « À cause de ces 40, je ne la détruirai pas. » Abraham poursuivit, « Que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être n'y aura-t-il que 30 justes. » Et Dieu dit, « Si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. » Abraham reprit, « Voilà, j'ai osé parler à mon Seigneur, mais peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Et Dieu répondit, « À cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Et vous savez combien de justes s'y trouvaient ? 2. Lot et sa femme. Et la ville a été détruite, mais les justes ont été épargnés. Bon, la femme de Lot a mal fini quand même, puisqu'elle s'est retournée et qu'elle était transformée en statue de sel, puisqu'elle n'avait pas respecté la parole de l'Éternel qui lui demandait de ne pas se retourner. Vous avez repéré le dialogue. Vous allez me dire, oui, mais 1, nous ne sommes pas Abraham. Et 2, nous ne l'entendons pas, le Seigneur. Eh bien, c'est à cela que j'aimerais réfléchir avec vous ce soir. Ah non, c'est là. Je regarde là-bas, mais il faut que je fasse ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va voir ce qui est marqué. Mais si vous ne connaissez pas Luc et Lucie dans Tournesol, il faut que vous lisiez Tournesol. Parce qu'il y a des bonnes trouvailles. Et donc, Luc et Lucie sont deux enfants chrétiens. Et ici, à l'école du dimanche, alors est-ce que quelqu'un arrive à lire ? Vas-y, lis ce qui est marqué parce que.
Alors, il y a quelqu'un qui dit.
C'est la monitrice, hein?
Alors, la monitrice d'abord. Alors, c'est
lesquels? À mon avis, je pense
à qui? À mon avis, Dieu veut qu'on fasse.
Non. Bon, je vais le faire puisque. Ah oui, elle ne parle pas, la monitrice. En fait, le sujet, c'est ce que Dieu veut. Et chacun dans l'école du dimanche répond, à mon avis, Dieu veut qu'on fasse. Non, tu as tort, moi je crois qu'il veut. Et ils se coupent tous la parole. Vous vous trompez tous les deux, moi je sais ce qu'il veut vraiment. Et Lucie a ce mot de génie. Dieu aimerait peut-être pouvoir placer. Mais ça ressemble des fois à nos réunions d'église.
Nous sommes prompts à parler et moins à écouter. Il me semble, mes amis, qu'un des risques court notre génération, c'est de demander, de louer, d'intercéder, de supplier, autant de synonymes du verbe prier, sans jamais prendre le temps d'écouter. Or, j'ai la conviction que la prière est du registre du dialogue, non du monologue. J'en veux pour preuve les psaumes, qui retracent souvent un parcours où le psalmiste évolue de l'angoisse ou de la colère à la confiance et à la joie. Alors, est-ce le résultat d'une simple délibération intérieure, d'une conviction ressentie ou de la voix de Dieu qui s'est fait physiquement entendre? En fait, le livre de Psaumes ne nous donne pas de solution à cette question. Nous en sommes donc réduits aux conjectures. Mais d'autres textes de l'Écriture nous laissent penser que Dieu se fait entendre de toutes les manières que je viens de citer. Par une voix qui s'entend, par une conviction qui s'établit dans le cœur. Pensez au magnifique dialogue que nous venons de lire entre Abraham et l'Éternel. Ici, c'est la parole de Dieu même, la parole physique qui s'exprime. Mais pensez à une autre situation à Antioche. Le Saint-Esprit fait jaillir au cours d'un moment de jeûne et de prière une conviction, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et d'ailleurs, on ne sait pas s'ils ont entendu une voix ou si c'est une conviction commune. Vous avez déjà entendu parler des comédiens d'aventure, Alain et Marion Combes? Ça vous dit quelque chose? Figurez-vous qu'ils étaient 7 à faire du théâtre, ce qu'on appelle du théâtre scolaire, c'est-à-dire qu'ils montaient des pièces classiques et tournaient dans les collèges et les lycées. Ils n'étaient pas chrétiens. Mais tous les 7 se sont mis indépendamment les uns des autres à lire la Bible. Je les ai connus parce qu'ils habitent à Lille, où j'étais pasteur. Et figurez-vous qu'un jour, ils se sont dit les uns aux autres, nous devons changer quelque chose dans notre théâtre. Nous devons désormais ne jouer que des choses que nous croyons, pour lesquelles nous sommes convaincus. Et l'un après l'autre, ils ont dit, j'ai lu la Bible. Et le deuxième a dit, ah mais moi aussi. Et le troisième a dit, ah mais moi aussi. Et désormais, nous voulons jouer les évangiles. Alors c'est encore plus extraordinaire que la prière de chrétien, puisqu'il s'agissait ici de la recherche de non-chrétiens qui, indépendamment les uns des autres, sont arrivés à la conviction et à la conversion par la lecture de la Bible. On n'entend pas toujours des voix, mais on peut avoir une conviction commune. Et puis il y a de mystérieuses interventions de l'Esprit qui sont signalées dans le livre des Actes. dont nous ne savons pas exactement comment elles se sont manifestées. Je vous lis. « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Alors la vision, nous voyons à peu près ce que c'est. Mais empêcher, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, comment ça s'est manifesté ? Ça reste mystérieux. Mais en tout cas, la réalité n'est pas mystérieuse, elle est bien là. Comment ça s'est manifesté, nous ne le savons pas. En fait, notre conviction, c'est que Dieu parle par la parole et par l'esprit. J'essaye d'expliquer. Nous savons tous que la parole de Dieu seule, sans le secours de l'esprit, ne peut pas toucher l'homme à salut. Mais l'esprit sans la parole non plus. Et ce qui se passe quand quelqu'un, lisant l'Écriture, la comprend, ça s'appelle en théologie l'illumination, tout d'un coup, je saisis, à cause de l'action du Saint-Esprit, ce que Dieu me dit. Et vous le vivez aussi après votre conversion. Vous savez, quand, repassant un texte que vous connaissez, vous vous dites « Ah, mais c'est ça que le Seigneur veut me dire !» La difficulté, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous écoutons Dieu ? Est-ce que nous faisons la place à l'Esprit ? À cet Esprit dont l'Apocalypse nous dit qu'il parle aux Églises. Hein ? Il y a des chiffres qui sont un peu troublants dans les sondages récents. Il y a 46% des protestants, en général, qui disent lire la Bible au moins une fois par mois. C'est pas excessif, hein ? Pardon ?
Complètement ?
Non. Qui, au moins une fois dans le mois, ouvre la Bible. Alors, ça s'améliore quand on ne prend en compte chez les protestants que les gens de tendance évangélique. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en termes de sociologie religieuse, dans ce sondage, on parle, c'est un sondage de 2010, on parle des sensibilités émergentes. Ça doit être les évangéliques. Il y a 79% d'entre eux qui lisent la Bible au moins une fois par mois. Mais là où c'est un peu curieux, c'est qu'il y a un écart entre ceux qui lisent la Bible et ceux qui prient. Il y a 63% de protestants qui prient, mais seulement 46% qui lisent la Bible. Vous me suivez ? Si je fais le ratio avec les sensibilités émergentes, il y a 90% qui prient au moins une fois par mois, mais seulement 79% qui lisent la Bible. Ça signale juste une chose, c'est que nous sommes plus prompts à parler qu'à écouter. Parce que où écoutons-nous la voix de Dieu aujourd'hui d'abord, si ce n'est dans sa parole ? L'exemple le plus frappant de cette tendance à moins lire la Bible, tout en restant relativement volubile en matière de parole, de prière, c'est le nombre croissant d'églises que je visite, où il se passe à peu près ceci. J'arrive dans l'église, il y a environ une heure de louange, et puis on essaye de tout faire, c'est-à-dire louange, offrande, annonce, accueil, sainte scène, et puis enfin, pour la fin, s'il y a encore un peu de patience, on donne la parole au prédicateur, qui doit se débrouiller avec la demi-heure qui reste. Alors, c'est pas forcément significatif, sauf que j'ai observé avec le temps que la parole de Dieu ne s'ouvrait quasiment plus dans l'heure de louange. Et j'en ai souvent parlé avec mon frère aîné qui n'est pas très conformiste et qui mettait souvent en doute mon analyse, qui se trouve être allé en Corse, pas l'été dernier mais l'été d'avant, et qui est revenu, il me dit « Étienne, c'est catastrophique, je suis allé dans une église évangélique, non seulement on n'a pas ouvert la Bible au moment de la louange, mais le pasteur ne l'a même pas ouverte pour prêcher. » Alors ça, quand je visite une église, en général, c'est moi qui prêche, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe. Mais il y a une réalité que j'observe, c'est que la Bible a tendance à s'ouvrir de moins en moins. Et je me demande si ce n'est pas parce que nous avons une piété de plus en plus centrée sur nous. Et c'est particulièrement vrai dans la prière. Nous nous retrouvons pour exposer nos préoccupations. Mais quelle place faisons-nous aux préoccupations de Dieu dans notre prière? Et ce travers rejaillit sur la qualité de nos temps de prière publique où nous nous révélons trop souvent incapables d'unir nos cœurs et nos pensées pour nous adresser d'une même voix au Seigneur. Combien de fois, et je sais que ce n'est pas facile, mais combien de fois dans l'Église, j'ai plutôt l'impression d'assister à une juxtaposition de prières individuelles qu'à une volonté d'écoute mutuelle et de prière commune. Les prières peuvent parfois fuser dans nos communautés, mais bien souvent dans toutes les directions, et l'on se demande si l'on s'écoute mutuellement en disant « Notre Père, au Dieu de Jésus-Christ ». Alors évidemment, vous allez me trouver un peu sévère et vous pouvez faire deux objections à ce jugement. Le premier, c'est de me dire « Mais non, l'Écriture n'est pas absente des temps de louange, puisqu'elle utilise bien souvent, et plus que par le passé, des passages bibliques pour s'exprimer ». C'est vrai. Nous chantons des textes bibliques, beaucoup plus que dans mon enfance. Mais ça ne me semble pas suffisant. D'une part parce que nos cantiques, récents en tout cas, ne se réduisent pas à la reprise de textes de l'Écriture. Et quand ils prennent un texte de l'Écriture, c'est souvent deux phrases qu'on répète 10 fois. Mais deux phrases quand même, et ce n'est pas beaucoup quand même. Il me semble que si c'est tout ce que nous retenons de l'Écriture, c'est quand même un peu maigre. Surtout que nous avons des dadas. Hein. C'est toujours un peu les mêmes choses que nous chantons. Alors il y a un milieu qui n'est probablement pas celui auquel vous êtes habitué, mais qui peut faire à bon droit valoir certaines places à l'écoute de Dieu par l'exercice du don de prophétie au cours du temps de prière communautaire. Oui, la prophétie, l'exercice du don de prophétie, tel que l'entendent les milieux charismatiques, peut représenter une forme d'écoute de ce que l'Esprit a à dire aux Églises. Mais, la réalité, c'est que, en fait, cet exercice du don de prophétie n'est pas toujours aussi exaltant qu'il y paraît. Je pourrais vous parler des prophéties insignifiantes qui témoignent plutôt du besoin irrépressible de parler du prophète que de l'Esprit de Dieu, sans compter les délires, parfois écrits, et j'en ai reçu quelques-uns, qui ne font jamais l'objet d'aucun correctif. Et que je prenne un milieu, pour le dire autrement, charismatique ou pas, il y a finalement trop peu de moments qui s'apparentent à une écoute attentive de Dieu dans nos communautés. Savez-vous comment faisaient les Quakers quand ils jugeaient bon de prendre une décision importante ?
Restez silencieux.
Et je me demande si au lieu de nous disputer dans nos assemblées générales, il n'y a pas des moments où il faudrait faire silence pour se mettre à l'écoute paisiblement de ce que Dieu veut nous dire. Mes amis, je crains que nous ne fassions fausse route, au moins en partie, qu'en exaltant la prière, nous oublions qu'une une pratique lucide de la prière passe d'abord par l'écoute patiente, attentive, je dirais même craintive de la parole de Dieu et donc de sa volonté. Vous avez écouté ce que dit Abraham. J'ai osé parler. Seigneur, je ne suis que poussière et cendre. Ce manque d'écoute me semble expliquer pour partie la pauvreté affligeante de la vie de prière dans nos églises. Trop peu conscient de l'horizon éternel de la volonté de Dieu, à la réalisation de laquelle nous participons mystérieusement par notre intercession. Je ne sais pas si vous imaginez que quand nous demandons au Seigneur que sa volonté se fasse, nous participons à l'accomplissement de la volonté de Dieu, du Dieu souverain. Honnêtement, a-t-il besoin de nous pour cela? À vue humaine, j'ai envie de dire non, sauf qu'il nous commande de prier. N'est-ce pas qu'il veut nous faire participer à son œuvre, aussi par notre prière? Un de mes professeurs disait, pourquoi prier puisque Dieu sait à l'avance ce que nous allons lui dire? Vous connaissez ce texte? Et il répondait, demandez à une épouse pourquoi elle aime entendre que son mari lui disent « Je t'aime ». Lequel mari, des fois, lui dit « Mais tu le sais ». Vous savez, il me semble que notre vie de prière ressemble aux demandes d'un enfant gâté qui n'a que lui pour centre. Nous voudrions une meilleure santé. Nous voudrions de l'épanouissement personnel, du succès dans nos petites entreprises. Mais on se lasse vite d'une vie qui tourne en rond. Ne serait-il pas temps que nous entendions les avertissements du prophète Ésaïe ? Petite erreur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Ne serait-il pas urgent que nous laissions place à la parole et à l'esprit pour qu'ils jugent nos égocentrismes pécheurs et renouvellent profondément nos façons de prier? Ici, le silence permettrait certainement à Dieu d'en placer une. Là, le courage d'une prière simple et dépouillée pourrait sonner le début d'une nouvelle relation. Être prompt à écouter et lent à parler, dit Jacques, me semble être aussi un principe de sagesse qui s'applique à la prière. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais pasteur. Nous étions dans une rue caché en fait, mais nous avions une vitrine de notre petite église baptiste. Il se trouve qu'une femme est venue habiter dans l'immeuble qui donnait sur cette rue et que à l'approche de Noël, elle est passée devant notre église au moment où nous sortions du culte. Et elle a reconnu, parmi les gens qui étaient là, une dame qui l'avait accueillie chez elle 20 ans auparavant pour des études bibliques. Et elle a été tellement saisie par cette coïncidence que ce cheminement avec Dieu qu'elle avait oublié, elle l'a repris et elle est venue au culte. Et je me souviens très bien, la première fois elle est entrée, alors nous avions, comme vous le pratiquez certainement, un moment de prière libre. Deux ou trois ont prié et puis elle a dit, de façon très simple, elle a dit, « Oh Seigneur, ben moi je ne sais pas prier comme eux. Hein. » Mais bon, je vais quand même essayer de te dire quelque chose. Moi, je t'aime. Pouf, ça a été fini. Et ça a amené une fraîcheur dans l'assemblée, parce qu'elle avait simplement parlé avec son cœur. Tiens, c'est marrant. C'est moi qui suis revenu en arrière en parlant. Je suis plus doué pour parler que pour ce genre de choses. J'aimerais ensuite vous parler d'un deuxième aspect. J'ai dit l'écoute, mais j'aimerais aussi vous parler de la demande. Parce que l'autre difficulté de la prière se situe dans la demande. Contrairement à ce que nous pourrions un peu trop facilement croire, demander n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Si vous êtes un tant soit peu observateur, vous aurez remarqué comment nous adultes avons construit des stratégies plus ou moins conscientes pour éviter le refus et donc ne pas demander de façon directe. Et en la matière, nous sommes d'une ingéniosité remarquable. Par exemple, je vous cite quelques exemples. Hein. Là, je parle de relations humaines, mais ça fonctionne, je pense, dans notre façon de prier Dieu. La demande détournée. Tu es libre ce soir ? En fait, il y a une idée derrière la tête. Mais si l'autre a le malheur de dire qu'il est libre, alors vous savez ce qu'il doit faire à sa place. L'autre façon de demander sans le demander vraiment, c'est, vous savez, quand la fenêtre est ouverte, qu'on est en groupe, et que vous dites « Vous avez froid ?» qui est une façon de dire « J'ai froid, moi, et j'aimerais bien fermer la fenêtre. » Mais comme je ne veux pas le demander, je voudrais d'abord savoir si vous avez froid. Ou bien, vous savez, ces fausses demandes que nous nous faisons régulièrement. « T'as vraiment envie d'aller au cinéma ce soir ?» En fait, la réponse est dans la question. Et puis, il y a aussi les demandes qui engagent d'autres. Mais est-ce que tu ne pourrais pas prendre au moins une journée pour les enfants ? Le « au moins » veut dire que tu pourrais aussi en prendre pour moi. Et puis, il y a la demande accusatrice. Est-ce vraiment nécessaire que tu regardes tout le temps le foot à la télé ? Et nous multiplions ainsi les façons de ne pas demander. Ou plutôt de poser des questions qui ne sont pas des questions. Et je crois que l'apôtre Jacques met le doigt sur cette réalité quand il nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier envieux sans rien pouvoir obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Alors là, j'avais simplement mis les différents exemples que je viens de vous citer. J'ai oublié de vous parler du chantage affectif, hein, mais j'en dis pas plus. Plusieurs passages du Nouveau Testament sont une invitation à oser exprimer à Dieu nos besoins. Et j'y reviendrai demain dans la question de l'authenticité, du fait de prier en vérité. Mais j'attire votre attention sur un verset de l'Écriture qui m'a toujours paru curieux par son côté vérité de la palisse. Vous savez ce que c'est qu'une vérité de la palisse, hein ? Une vérité évidente. Alors ça, c'est pas ça. Ça, c'est Jacques. C'est celui-là. Je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. C'est un peu étonnant. Ça paraît aller de soi. Pourquoi faire une telle recommandation ? Sinon, parce qu'il n'est pas aussi évident que cela pour l'homme pécheur de demander à Dieu, en fait. Dès l'origine, la chute a introduit une dimension de peur chez l'homme. Dans sa relation à autrui, d'où toutes ces stratégies d'évitement où je demande sans demander. Et particulièrement dans sa relation à Dieu. L'expérience pastorale a confirmé cette difficulté. Je pense à une personne qui m'est chère et qui m'est proche et qui n'osait pas prier Dieu pour son avenir professionnel
parce qu'elle était persuadée que Dieu ne tiendrait pas compte de ses craintes et lui imposerait des conditions de vie impossibles. Mais cette peur n'était pendant longtemps qu'une paralysie émotionnelle qui ne portait pas de nom et qui se traduisait par l'incapacité de cette personne à prier avec autrui et aussi à ouvrir son cœur à Dieu. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle projetait sur Dieu l'image de son père terrestre, tyrannique et violent, qui exigeait toujours plus qu'elle ne pouvait donner par sadisme pour ensuite la réprimer. Il a fallu donc tout un travail d'analyse au sens commun du terme pour nommer ce problème et pour en être soulagé. Et c'est dans un moment de crise spirituelle où elle ne voyait plus d'issue à son mal-être qu'elle a reçu la grâce de dire à Dieu « J'ai peur de toi ». Et alors, l'aveu a été le déclic qui lui a permis d'accepter le Père Céleste pour ce qu'il était, un Père bon. Et je pourrais ajouter à titre pastoral d'autres exemples. Combien j'ai rencontré de personnes dans mon bureau qui n'osaient pas parler de leurs problèmes à Dieu pour diverses raisons. Parce qu'elles n'en valaient pas la peine. Elles avaient une telle mauvaise image d'elles-mêmes qu'elles n'imaginaient pas que Dieu puisse s'intéresser à elles. Il y a celles qui ne voulaient pas parler parce qu'elles ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu peut s'intéresser à mes petites affaires ? J'attire votre attention sur le fait que le verset cité se trouve précisément dans un passage où l'image du Père terrestre est utilisée. Ce qui indique à quel point cette question est déterminante pour la prière. Vous savez ce que c'est ? Quelle est cette image ? À propos du Père terrestre qui ne donnera pas un serpent à son enfant qui lui demande du pain. À plus forte raison, votre Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors dans une version, c'est le Saint-Esprit. Dans une autre, le Saint-Esprit n'est pas évoqué, mais il demandera ce qui est donnera ce qui est demandé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vois qu'il est déjà 10h moins 10. Donc la question de prier en vérité, qui est une question importante, on va la laisser pour demain. On poursuivra la réflexion demain. J'aimerais que vous reteniez ceci. Prier, c'est écouter Dieu. D'abord, mais osez lui demander aussi. Ensuite. Et je vous invite à la prière. Nous n'avons qu'une chose à te dire, Seigneur, c'est apprends-nous à t'aimer. Parce qu'au fond, la prière est d'abord une expression d'amour et que nous sommes bien pauvres en la matière. Pardonne nos peurs sans fondement. Pardonne le temps que nous ne prenons pas pour te parler. Pardonne l'égocentrisme qui nous étreint et qui fait que nous pensons à notre volonté plus qu'à la tienne. Et que l'esprit que tu as mis en nous et que tu chéris agisse pour que nous puissions te réjouir par nos chants, par nos paroles, par nos confessions, par tout cet apprentissage d'enfants qui apprennent à te dire merci et s'il te plaît. Conduis-nous, Seigneur, accorde à chacun le repos dont il a besoin et que nous puissions être édifiés pendant ce week-end. Amen.
Merci Étienne pour...